Dans l'actualité des idées aujourd'hui, le monde de l'art est-il multipolaire? Et alors, la Biennale de Venise cette année, c'est comment? Temps fort du monde de l'art contemporain. Les plus grandes galeries s'y pressent pour y présenter leurs artistes et y réaliser quelques affaires. Il y a quelques années encore, un pays dominait le marché, estimé à 60 milliards de dollars l'an passé, et surtout, les cultures. Vous l'aurez deviné, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale et en pleine guerre froide, les États-Unis ont vite compris le rôle stratégique de l'art contemporain. Vecteur de puissance, valeur d'échange, il contribue au rayonnement culturel d'un pays et donc à sa puissance politique et économique. Mais qu'en est-il aujourd'hui devant l'émergence de nouveaux acteurs comme la Chine? L'hégémonie américaine est-elle remise en cause? Auteur de la géopolitique de l'art contemporain qui vient de paraître au Cavalier Bleu, notre invitée, la galeriste Natalia Obadia, est ici, présente comme galeriste à Paris et à Bruxelles et par ailleurs chargée de cours, enseignante à Sciences Po Paris. Bonjour à vous Natalia Obadia.
Bonjour.
L'artiste et le marchand, c'est le titre de l'un de vos chapitres. Un duo d'ambassadeurs, écrivez-vous. On en a tous les deux ans, un bel exemple peut-être avec cette biennale de Venise, cette idée d'ambassadeur, de l'artiste ambassadeur. Une biennale où tous les pays n'ont pas la possibilité de battre pavillon, il faut le préciser. 90 nations en compétition cette année, dont la France. Être l'artiste qui représentera son pays, comme Laure Prouveau, qui était avec nous dans la première partie de l'émission, locataire cette année du pavillon français. L'enjeu n'est pas que artistique.
Ah non, bien sûr, l'enjeu est bien entendu artistique, mais au-delà du choix d'un artiste pour occuper le pavillon de la France, il s'agit de donner une image. Il s'agit de savoir exactement ce que l'on veut donner comme signe. Et je crois le fait que d'avoir choisi Laure Prouveau, donc il y a un an, puisque son nom a été dévoilé en juin l'année dernière, c'était une manière de vouloir montrer une scène artistique française dynamique, ouverte sur le monde, puisque Laure Prouveau vous l'a bien expliqué, française, elle a vécu et acquis une expérience en Angleterre, puis en Belgique, ou l'inverse. Elle revient en France, elle a fait déjà un certain nombre d'expositions, comme au Consortium du Dijon, au musée de Rochechouart. Donc c'est une manière de montrer que un artiste français ne se contente pas d'une frontière hexagonale. Et un artiste aujourd'hui se nourrit de tas d'influences culturelles de ses voisins, et le cas de Laure Prouveau, justement à l'heure du Brexit, ou non-Brexit en tout cas, est vraiment, vraiment intéressant de montrer que tout est interpénétré.
D'ailleurs c'est intéressant, qui fait le choix de l'artiste qui représentera une nation à la Biennale de Venise? Est-ce que c'est un jury de professionnels du secteur de l'art, ou est-ce que c'est des organismes plutôt diplomatiques?
C'est un ensemble d'organismes diplomatiques et un jury de professionnels. Il y a donc des personnalités qui viennent du ministère des Affaires étrangères, du ministère à travers l'Institut français, du ministère de la Culture. Et au sein de ce comité sont invités des conservateurs qui peuvent être du Centre Pompidou. C'était le cas de Christine Massel, puisqu'elle était justement la directrice de l'ancienne Biennale de Venise. Il y a des collectionneurs. Je crois qu'il y avait Gilles Fuchs, qui est le président de la DIAF, de cette association extrêmement importante de défense des artistes français. Et puis, il y avait des directeurs de musées, de régions et des critiques d'art. Donc voilà, c'est un ensemble de personnalités qui se sont réunies pour choisir l'artiste.
Pour vous qui la représentez ici en France et à Bruxelles, ça signifie quoi une artiste qui va à la Biennale de Venise représenter son pays? Est-ce qu'elle va bénéficier de ce côté vu à Venise?
Écoutez, je pense que c'est vraiment une grande joie. C'est aussi une gratification intellectuelle, puisque Laure Prouveau, je l'ai rencontrée en 2011. Depuis, on n'a jamais cessé de se voir, de travailler ensemble à travers des expositions dans mes galeries, à travers aussi des installations, des aides lors d'expositions dans des musées. Donc, si vous voulez, je et la galerie, nous étions très très heureux, très fiers en tout cas que Laure puisse occuper le pavillon français. Le vu à Venise, bien sûr, mais comme vous l'avez dit, il y a 90 nations, des expositions périphériques, l'exposition internationale, donc il faut se distinguer. Ça a été le cas, Voilà, dès le premier jour, il y a eu vraiment une attente incroyable pour entrer dans le pavillon français. Et il y avait cette phrase de gens qui couraient dès le matin et qui disaient « I run to France ». Voilà, parce qu'ils voulaient absolument rentrer dans le pavillon français. Donc oui, c'est vraiment une très très belle expérience.
Et c'est une visibilité importante pour les artistes, comme pour ceux qui les représentent. Plus de 400 000 visiteurs en moyenne à chaque...
600 000, oui, 600, c'était 600 000 600 même il y a deux ans.
C'est énorme. Mais peut-être un petit peu moins que les foires, d'après ce que vous dites, en termes d'importance stratégique pour les artistes ou les galeries. Art Basel, surtout, événement total, écrivez-vous, et mondial, sûrement le plus important de la scène artistique. Pourquoi ? Ça concentre des énergies différemment ? Les attentes sont différentes dans une foire ?
Alors, effectivement, il faut faire vraiment attention de ne pas faire cet amalgame, mais il peut exister entre la Biennale de Venise, donc créée en 1895, qui est vraiment une exposition institutionnelle, voilà, qui met en avant des artistes, qui met en avant, enfin, des artistes à travers les pays, qui sont comme des ambassades dans les jardins et aujourd'hui disséminés dans toute la ville. Il y a aussi donc des expositions autour, maintenant, qui effectivement donnent un côté, on va dire, un peu plus commercial à cette biennale, puisque la plupart de ces expositions sont financées ou cofinancées par des galeries. Mais avant tout, la biennale, c'est quand même cet événement mondial, le seul concurrent étant la Documenta en Allemagne, qui a été créée en 1955. Donc c'est quelque chose de tout à fait à part et qui a, on va dire, évidemment, une aura intellectuelle et beaucoup plus culturelle. Après, les foires, donc la foire de Bâle, puisqu'on parle de celle-ci qui a été créée en 70 à Bâle, elle est un événement total dans la mesure où non seulement là, il y a, je veux dire, les plus grands acteurs commerciaux du monde entier, donc qui représentent évidemment les artistes les plus connus ou en tout cas en devenir, mais il y a de l'autre côté aussi de la part de Bâle de vouloir en faire non pas simplement un événement commercial mais un événement un peu total comme je l'ai dit, c'est-à-dire qu'ils ont cette volonté de faire si vous voulez des rencontres entre ce qu'on appelle des talks, des discussions entre différents acteurs. Il y a aussi le fait d'avoir créé Art Unlimited qui est une espèce de grande halle dans laquelle des œuvres de taille monumentale sont exposées et qui rentrent presque en concurrence justement là avec la Biennale de Venise.
Alors la Biennale, c'est aussi un bon baromètre des évolutions de cette géopolitique de l'art que vous décrivez dans cet ouvrage qui vient de paraître au Cavalier Bleu. Et on peut l'évoquer à travers trois noms, trois dates. Peut-être la première, 1964. C'est un Américain qui décroche le Lion d'Or, Robert Rauschenberg, contre un Français d'ailleurs, presque 40 ans son aîné, plus vieux que lui, qui est un représentant de l'École de Paris. Qu'est-ce que ça veut dire, le fait que cet Américain, à ce moment-là, remporte ce Lion d'Or à la Biennale de Venise ?
Ça a été... une déflagration officielle. Mais si vous voulez, depuis même avant la Seconde Guerre mondiale, et en tout cas cela s'est accéléré après 1945, c'est vrai que les États-Unis ont diffusé ce soft power, vous voyez, cette influence, on va dire, culturelle qui se passe en temps de paix, d'une certaine manière. C'est une manière de marquer son territoire et de l'exporter dans d'autres lieux. Donc là, c'était évidemment l'Europe qui était en train de se reconstruire, surtout l'Allemagne, évidemment. Et puis tout ça se fait à travers des contrats très précis, le plan Marshall, avec les accords Blum-Barnes, où effectivement la culture est totalement au centre des intérêts économiques. Donc, si vous voulez, on voit, par exemple, aussi bien, enfin, évidemment, en Allemagne, mais un petit peu en France, un peu plus en Italie, il y a cette avancée, si vous voulez, de la culture et des arts plastiques américains qui se fait. Mais officiellement, ça ne se voit pas. Par contre, 1964, Lion d'Or à Robert Rauschenberg, qui est quand même un des plus grands artistes du pop art, là, effectivement, on s'aperçoit que...
C'est sonnant et trébuchant.
Voilà, c'est sonnant et trébuchant. Ouais. Et puis, quand on lit la manière dont ça s'est passé, on s'aperçoit que tout ça a été tout à fait stratégique et qu'il y avait effectivement des aides politiques, même de la CIA, d'agents, si vous voulez, culturels, mais qui avaient cette mission d'apporter, de faire en sorte qu'à un moment donné, l'Amérique, puisqu'au-delà de Rauschenberg, c'est l'Amérique, puisse être le vainqueur de la Biennale de Venise.
Oui, parce que vous avez cité le mot soft power, mais vous rappelez aussi dans cet ouvrage qu'il a été conceptualisé bien plus tard, en 1990,
oui,
par
Joseph Nye,
et qu'il ait pensé ce soft power américain en matière d'art aussi comme un moyen d'influencer avec des moyens non coercitifs, mais aussi exporter sa culture, et tout aussi important pour les Américains, d'exporter ses valeurs, leurs valeurs. On va revenir sur ce messianisme américain à travers l'art, pour construire et diffuser à la fois les grands mythes et les valeurs américaines. Mais on comprend déjà là, en 64, la rupture que représente ce Lion d'Or décroché par un artiste américain. Et l'Europe, pendant ce temps, et la France, est-ce qu'elle acte sa défaite? 86, deuxième nom et deuxième Lion d'Or, il est cette fois pour l'artiste Daniel Buren, le français. Est-ce que ça, c'est l'effet d'une réaction de l'Europe face à ce début d'hégémonie américaine?
Oui, de toute façon, il y a eu une réaction de l'Europe assez rapidement, déjà par les pays qui étaient au départ les plus influencés par les États-Unis, puisque l'Allemagne était effectivement le premier territoire de ce soft power américain, mais ils ont réagi à la fois de manière assez, assez dynamique, avec justement Documenta, qui était là pour montrer aussi des artistes européens face à l'arrivée des Américains, et puis aussi avec la création de la foire d'art contemporain qui a permis de voir justement la renaissance de l'art allemand dès la fin des années 70. Mais là où ils ont été, on va dire, à la fois très pragmatiques et vraiment très malins, c'est que plutôt que de dire on va rejeter l'art américain qui arrive, on va se reconstruire mais à côté d'eux. Donc si vous voulez, ça c'était très important, aussi bien dans les musées américains que dans les galeries allemandes ou chez les grands collectionneurs influents comme Ludwig, vous avez à la fois les Américains et les Allemands. Donc ils se sont mis côte à côte et ça c'était très, très, très malin d'une certaine manière. Donc pour en revenir à la France, c'est vrai que nous, pendant, on n'a pas tellement compris qu'on se faisait un petit peu balayer par les Américains. On a continué avec une école de Paris, avec des artistes de très bonne qualité, mais qui n'avait pas cette appellation d'avant-garde qui, à un moment donné, fait qu'on fait contemporain. C'est ce qui s'est passé quand même aux États-Unis avec les abstraits expressionnistes, puis après avec le pop art, évidemment. Tout ça a été mené aussi par des jeunes collectionneurs, enfin jeunes ou moins jeunes, mais qui voulaient montrer justement qu'ils sortaient d'une espèce de conservatisme et montrer qu'ils étaient à la page et qu'ils collectionnaient justement l'avant-garde. Chez nous, on n'avait pas cet ensemble de collectionneurs justement qui pouvaient aussi accompagner cette avant-garde qui était très peu connue. C'était une infime minorité de collectionneurs élitistes et qui se faisaient pas connaître. Donc, si vous voulez, on ne pouvait pas communiquer.
Voilà. Et on n'avait pas cette stratégie d'ensemble. Vous dites que ça va évoluer un peu dans les années 80. Avec l'arrivée de François Mitterrand au pouvoir et Jack Lang surtout.
Jack Lang,
L'exception française va s'appliquer, ce qui n'était pas le cas auparavant, aux arts plastiques assez tardivement, et vont commencer à apparaître, alors je ne vais pas dire des artistes officiels parce que c'est effectivement et bien sûr très connoté, mais disons des artistes qui privilégient les commandes publiques au marché privé, mais qui sont en tout cas soutenus, qui sont soutenus aussi par l'État, dans ce besoin de visibilité.
Voilà, c'était l'État, si vous voulez, qui... d'une certaine manière, pallier ou souhaiter complètement, pallier l'absence du marché privé, d'une certaine manière. Rien n'était fait, d'ailleurs, justement, pour les encourager, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à cette période-là, il y avait aussi toute cette peur avec les impôts sur la fortune. Beaucoup de personnes avaient quand même émigré ou ne voulaient pas se faire connaître. Donc, on n'était pas quand même dans une période où il était de bon ton de montrer, en tout cas, sa collection d'art contemporain. Effectivement, la nature ayant horreur du vide, l'État était le commanditaire principal, donc c'est lui effectivement qui donnait beaucoup d'argent pour les commandes publiques. Effectivement, c'est à ce moment-là aussi qu'il y a eu la création d'un certain nombre de centres d'art, de musées nouveaux dans les régions, et c'est là aussi qu'il y a eu cette génération d'inspecteurs à la création, de comités vraiment avec des fonctionnaires ou des attachés de ministères publics qui donnaient le nom de certains artistes pour pouvoir représenter la France, et on s'appelle perçoit aujourd'hui que finalement ont été mis en avant un certain nombre d'artistes qui étaient là pour occuper une espèce d'espace intellectuel, un espace aussi plastique, mais qui était très éloigné de ce qui aurait pu rentrer après dans le marché. Voilà, donc très peu de peintres ont été visibles, et c'est là où effectivement on a été un peu distancié après par le marché qui s'est développé en Allemagne, aux États-Unis et un peu plus tard aussi au Royaume-Uni.
Alors la Biennale de Venise, puisqu'on y est en ce moment depuis le 11 mai et jusqu'à la fin novembre avec cette 58e édition, la Biennale de Venise comme baromètre des évolutions et des nouveaux équilibres géopolitiques sur le marché de l'art contemporain avec vous, Nathalie Obadia. On a cité 64, on a cité 86, 64 les États-Unis, 86 le français Daniel Buren, 99 le premier artiste chinois à recevoir un Lion d'Or à Venise, je risque d'écorcher son nom, Cai Guo.
Voilà, je vous accompagne pour l'écorcher aussi.
Mais vous reprenez derrière en nous expliquant ce que ça veut dire pour la Chine. Parce que c'est une période, la fin des années 90, de montée en puissance de la Chine dans le monde de l'art contemporain et sur ce marché qu'est l'art aussi.
Bien sûr, puisque effectivement depuis la fin des années 70, il y a une ouverture de la Chine... au monde, puisque c'est la fin quand même voilà, de Mao. Il y a cette ouverture, cette volonté d'ouverture. Bon, il ne faut pas oublier qu'à 89, 10 ans après, il y a quand même les événements de Tiananmen, donc tout ça se fige d'une certaine manière. Et en 99, à Venise, il y a effectivement l'apparition d'un ensemble d'artistes chinois qui sont montrés par le commissaire général de l'époque de Venise, qui était Harald Zeman, et ça a été une grande découverte. Moi, je me souviens très très bien de cette biennale, où il y a eu vraiment une découverte incroyable. En 99, il y a aussi 2001, comme ça, puisque c'était le même, où on s'est rendu compte qu'il y avait une véritable culture, voilà, contemporaine, d'artistes chinois, et effectivement, donc, ils ont remporté à travers cet artiste le Lion d'or. Ça a donc marqué. Voilà. La différence, c'est qu'aujourd'hui, la Chine, justement, n'a pas remplacé les États-Unis en termes de soft power. C'est-à-dire qu'elle n'est pas l'exemple. Les États-Unis ont quand même diffusé un art de vivre, une façon de vivre. Ils ont dispensé, voilà, on a une espèce d'American way of life dans tous les domaines que la Chine n'a pas remplacé encore aujourd'hui. Et aujourd'hui, quand on voit aussi bien les pays limitrophes de la Chine que ce soit la Corée ou le Japon, personne n'a envie d'être sinisé. Donc, si vous voulez, même déjà dans leur région proche, la Chine n'arrive pas à s'imposer. Voilà. Donc,
pourtant, on a l'impression qu'il y a beaucoup de musées qui vont s'ouvrir aujourd'hui en Chine, beaucoup de collectionneurs privés chinois aussi qui font l'acquisition d'œuvres, alors peut-être pas d'artistes chinois, mais d'artistes étrangers.
Alors effectivement, il y a des musées qui se sont construits. Ça va être un petit peu difficile aujourd'hui parce qu'il va falloir les remplir. Et avec cette censure rampante qui existe en Chine, aujourd'hui, c'est quand même difficile de pouvoir faire exactement ce qu'on veut. Et puis il y a aussi le fait qu'à partir du moment où c'est... parce que ce sont des musées privés qui ont été faits par des propriétaires de compagnies, enfin des grandes fortunes chinoises, comme à Shanghai par exemple, on s'aperçoit que finalement, comme ils veulent faire des entrées, faire parler d'eux, ils exposent assez rapidement des artistes occidentaux. Moi, deux ou trois fois, j'allais dernièrement à Shanghai, je vois une exposition de La Fouriasson, je vois une exposition de Louise Bourgeois, ou j'ai vu une exposition de Giacometti. Donc si vous voulez, finalement, ça ne fait que renforcer le soft power occidental. Et puis, un peu la même chose pour les achats, on s'aperçoit aussi que les collectionneurs chinois de Chine continentale, à partir d'un certain seuil de prix, ont plutôt tendance à acheter des artistes occidentaux plutôt que des artistes chinois contemporains, puisqu'ils savent que c'est effectivement plus reconnu, donc forcément aussi source de profit si jamais ils doivent céder leur collection.
On va se diriger vers un autre grand continent, l'Afrique. Est-ce un continent artistique émergent? Pour ouvrir cette discussion, je vous propose d'écouter deux témoignages. Tout d'abord celui de Hila Donwayi. Elle est présidente d'une fondation, la fondation Donwayi, et elle nous fait un état des lieux du marché de l'art contemporain en Afrique.
Des collectionneurs, nous, à notre niveau, je dirais qu'on, à Abidjan en tout cas, on est à 50% d'acheteurs par rapport à 50% d'étrangers qui achètent, parce que Abidjan est un hub. Et on ne va pas s'en plaindre. Donc, à ce niveau-là aussi, il y a eu une évolution. Il faut que ça continue. Abidjan est un marché où les œuvres d'art se vendent. Dakar a la biennale et Abidjan a le marché. Il faut quand même le préciser.
Très important.
Maintenant, effectivement, il faudrait beaucoup plus de collectionneurs. Il faudrait beaucoup plus de visibilité. C'est surtout ça, et surtout au niveau éducatif, introduire la culture. Et les choses se feront. Parce que les acteurs principaux, les artistes, font. Ils ne se laissent pas, ils n'attendent pas, ils font et nous essayons de les aider.
Voilà le hub selon Hila Donwayi. Un deuxième témoignage et je vous redonne la parole, Nathalie Obadia, celui maintenant de Fel Winsar, qui est le co-auteur avec Bénédicte Savoy du rapport sur la restitution des œuvres d'art et qui lui disait un peu le contraire de ce que vous évoquiez pour la Chine à l'instant. Il y a des œuvres, mais il n'y a pas les infrastructures. Là où en Chine, il y a les infrastructures maintenant, mais il n'y a pas d'œuvres à mettre dedans.
On a fait une cartographie des musées du continent, on en a dénombré 500. Dans ces musées-là, il y a des pays qui ont entre 30 et 50 musées, l'Afrique du Sud, le Nigeria, et il y a une grande hétérogénéité de dispositifs et de qualité. Il y a des pays qui n'ont absolument rien à envier aux pays de l'Europe occidentale, il y a des pays où il y a des efforts qui sont en train d'être faits et d'autres où des efforts doivent être faits. Donc, pour les restitutions à court terme qui devraient être effectuées, les conditions existent. On a proposé un chronogramme court, moyen, long terme. Le moyen terme, c'est le temps de mettre en place les commissions paritaires, mais c'est aussi le temps pour les pays de se doter d'infrastructures si elles sont absentes, de se doter de compétences si elles sont absentes et de faire les choses dans leur temporalité. Lorsque les œuvres ne sont pas là, il n'y a pas de raison qu'on investisse énormément dans les infrastructures, mais dans l'histoire des translocations patrimoniales, y compris les histoires européennes, lorsqu'on sait que les œuvres reviennent, les pays investissent dans les dispositifs et dans les... Donc c'est un argument qui ne tient pas, et c'est un argument qui a été agité avec une grande facilité. Et quand il s'agit du continent, on a tendance trop vite à généraliser les insuffisances et les manques. Et il y a des œuvres qui disparaissent dans les musées européens, on ne remet pas en cause leur capacité de conserver.
Felwinsar, Nathalie Obadia, ce rapport Sarre-Savoie, il a quand même eu aussi l'avantage de réouvrir cette question de l'organisation de ce marché de l'art sur le continent africain et aussi de la possibilité d'avoir là-bas des scènes culturelles qui soient autonomes pour y ramener les œuvres d'art du patrimoine africain pour que cette restitution soit possible.
Alors là, on parle de deux choses différentes. Donc il y a aujourd'hui ce rapport Sarre-Savoie sur la restitution d'objets, d'œuvres d'art qui sont anciens, forcément, puisqu'ils sont la plupart dans des musées ici en Europe ou aux États-Unis. Moi, je parle des œuvres d'art contemporain, voilà, où effectivement, ce dont on s'aperçoit, c'est que effectivement, l'Afrique est une scène, mais c'est une scène... compliqué de 54 États, qui est loin d'être stable, et quand on s'aperçoit effectivement où ont lieu les scènes, on a besoin de stabilité hein, politique et économique, donc tout ça est un peu plus compliqué. Donc tout ça pour dire qu'aujourd'hui les artistes contemporains africains, certains peuvent rester travailler ou s'installer en Afrique, et on s'aperçoit qu'un certain nombre, à partir d'un certain succès, ont plutôt tendance à partir s'installer en France, en Angleterre, aux États-Unis. Certains jouent aussi sur le fait qu'ils peuvent avoir deux ateliers, hein, toujours en Afrique ou hein, dans un des pays occidentaux. C'est parce qu'ils se rendent compte que le marché, moi je l'ai appelé externalisé, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que ce qu'on appelle les test makers, d'une certaine manière, ces personnes influentes que sont les collectionneurs, les critiques d'art, les directeurs du musée, les lieux dans lesquels on peut faire des expositions influentes, ne sont pas très peu en Afrique. Donc s'ils veulent effectivement se faire connaître et pouvoir vendre, je parle aussi d'ailleurs des galeries, il y a deux ou trois galeries en Afrique, mais les galeries influentes sont plutôt en Occident. Et d'ailleurs, la Biennale de Venise cette année le montrait très bien, puisqu'il y avait le pavillon du Ghana, qui était un pavillon tout à fait intéressant, et aussi bien l'architecte qui avait conçu le pavillon était lui-même africain, mais vivait en Angleterre, je crois, aux États-Unis. Et parmi les cinq artistes qui étaient montrés dans son pavillon, la majorité habitait aussi à l'étranger, voilà. Donc, si vous voulez, c'est un petit peu compliqué, voilà, de parler des deux problèmes, voilà, aussi bien le problème de la restitution que de la scène contemporaine aujourd'hui. Mais il y a, comme l'a dit Madame, c'est qu'il y a une galerie à Abidjan, c'est vrai que c'est un hub. Dakar le devient aussi, parce qu'en plus c'est tout bête, mais il y a un avion direct jusqu'à New York, mais c'est quand même quelque chose d'important. Et puis il y a cette foire d'art africain. Il y a notre pays qui va devenir un hub, qui est le Maroc, avec la foire africaine 1.54, qui a été créée par Tourial Glaoui, qui a commencé d'abord à Londres, puis après aux États-Unis, et qui a maintenant une antenne au Maroc. Et pour l'avoir pratiquée, pour avoir participé à cette foire l'année dernière, je me suis rendu compte qu'effectivement, de Marrakech et du Maroc, il y a vraiment la volonté de devenir justement certainement un centre important pour l'art du continent africain.
La galeriste et enseignante à Sciences Po, Nathalie Obadia, est notre invitée jusqu'à 13h30 à l'occasion de la parution de son essai entre géopolitique et art. D'ailleurs, puisque ça s'appelle Géopolitique de l'art contemporain, une remise en cause de l'hégémonie américaine, eh bien on va voir maintenant, on va faire le bilan de tout ce qu'on vient de se dire avec vous jusqu'à 13h30.
France Culture. La grande table. Olivia Gesbert.
Depuis 20 minutes qu'on parle de ces nouveaux équilibres, on n'a pas le sentiment que pour l'instant les États-Unis soient menacés dans leur hégémonie sur ce marché de l'art contemporain, Nathalie Obadia. Juste pour revenir donc sur ce soft power américain, il a été conceptualisé assez tôt par un marchand d'art qui avait vraiment pensé à tout, Samuel Coates, à l'origine du premier manifeste d'expansionnisme culturel. Qu'est-ce qu'il disait? Quelles étaient les règles qu'il avait définies pour y parvenir?
C'était finalement très messianique, Hein, c'était, vous savez, il y a cette théorie, ce qu'on appelle la fin des frontières en 1890 aux États-Unis, où, voilà, à un moment donné, ben, on s'est rendu compte qu'on est allé à l'extrême ouest, voilà, les chercheurs d'or, tout ça, ça y est, on sait que le continent est fait, voilà, c'est-à-dire qu'à un moment donné, voilà, le pays est là, il est construit, il faut aller au-delà, voilà. Et cet au-delà, eh bien, à partir du moment où on devient quand même un pays riche, un pays conquérant, puisqu'il y a eu comme la première guerre aussi mondiale, 14-18, où les États-Unis sont venus nous sauver en Europe, enfin accompagner en tout cas la victoire. Donc si vous voulez, à un moment donné, il faut aller encore plus loin. Donc le plus loin, ben, c'est d'exporter son savoir-faire, sa culture dans d'autres contrées, puisque justement le territoire américain n'y suffit plus d'une certaine manière. Voilà. Donc c'est d'avoir confiance dans sa culture, et sa culture, il avait compris Samuel Coates, il avait fait déjà... beaucoup d'argent, et il connaissait très bien le milieu du cinéma qui commençait à se créer à Hollywood. Il a voulu plaquer d'une certaine manière les mêmes règles.
Ouais.
Voilà. Et donc il s'est allié avec des critiques d'art, il s'est allié avec des collectionneurs, et puis des agents aussi d'ailleurs en France, pour exporter les artistes américains auxquels il croyait. Et en plus, il était connu parce que en Europe, puisqu'il connaissait bien Picasso, il connaissait bien aussi des artistes français comme Mathieu, comme Soulages, et il avait compris qu'il fallait pas qu'il rentre en concurrence. Je peux vous assurer qu'assez rapidement, il a marginalisé ces artistes français qu'il avait déjà commencé à exposer à New York pour se concentrer vraiment sur l'art américain.
Voilà. Donc après, il crée ce mouvement d'avant-garde. Il va exporter les artistes américains comme Pollock ou Rothko en Europe à travers plusieurs expositions. Il incite aussi les artistes à réaliser des grands formats. Parce que ça lui permet d'être visible.
Exactement.
Et il y a un sentiment de puissance aussi à travers ça. Et puis, il va beaucoup, ça c'est autre partie importante de la stratégie presque qu'il met en place, personnaliser le travail de l'auteur à travers des expositions et le valoriser à travers tout un dispositif d'écrit critique pour légitimer
ses
artistes.
Alors là, c'était avec Clément Greenberg.
C'est la suite de l'histoire.
C'est ça qui est intéressant, c'est que Samuel Coates était un capitaliste, un Américain qui avait envie de faire de fortune, mais plus que ça, messianique, comme pouvait l'être d'ailleurs aussi Walt Disney. C'était des hommes d'affaires, mais ils avaient vraiment, ils étaient très patriotes. Donc il y avait ça, et il s'est allié avec des intellectuels. Donc c'était Clément Greenberg qui était effectivement le avec Rosenberg aussi l'inventeur de ce mouvement, donc des abstraits américains, et qui était à l'opposé au départ, qui était plutôt, on va dire, des trotskistes, qui étaient anti-capitalistes et tout. Mais le fait même de faire une Amérique forte face aussi de l'autre côté en Europe à une URSS, justement, stalinienne, c'était aussi ça le rempart. C'était à un moment donné de pouvoir vraiment être conquérant d'un autre modèle, de ce grand modèle. Voilà, ça c'est vraiment. Mais on s'aperçoit que finalement tout ça est ancien, parce que j'ai lu il y a pas très longtemps un livre sur la naissance du marché américain à partir de 1830, où on s'aperçoit que dès la fin du 19e, il y avait cette volonté des artistes et aussi des grandes familles comme les Havemeyer ou les Mellon, et des artistes comme Church, voilà, déjà de s'imposer et de devenir vraiment des modèles. Donc si vous voulez, c'est une histoire finalement assez ancienne aux États-Unis.
Et un bon exemple de ce messianisme américain aujourd'hui encore à travers l'art, c'est peut-être l'artiste Jeff Koons, qui, après des débuts sulfureux, prône aujourd'hui les vertus de la rédemption, et on se souvient notamment de son bouquet de tulipes qu'il a offert à la ville de Paris en hommage aux victimes des attentats de 2015 et au nom des valeurs communes, celles de la liberté. C'était un bel exemple de ces valeurs occidentales qu'il entendait valoriser à travers son art. Les collectionneurs. On va écouter juste, pour ouvrir cette dernière partie de notre discussion, le coup de gueule d'un collectionneur, extrait d'un documentaire de 2017, Alain-Dominique Perrin.
Il y en a marre, quoi, que l'art soit aux mains à la fois des technocrates, un peu des politiques, et beaucoup d'une élite. Et d'ailleurs, quand vous regardez l'histoire de l'art, c'est une histoire de... Le mécénat, qui est vraiment, qui a été un de mes chevaux de bataille longtemps, c'est une histoire d'élite. Je veux dire, le mécénat a été soi-disant inventé par les Médicis, mais c'est pas vrai, il a été inventé par les puissants pour les puissants.
Moi, je pense que le collectionneur, s'il ne s'intéresse qu'aux grands artistes, il est con, pour être très clair. Ça devient un spéculateur, ça devient une victime du système, et moi, je suis à l'envers de ça. Un artiste a toujours une raison de créer, mais un artiste, il faut que ça bouffe, comme tout le monde. Ça a besoin de bouffer. Et par les temps qui courent, il n'y a pas de sécurité sociale spéciale artiste. Les artistes sans collectionneurs, les pauvres, ils sont mal barrés. Il leur reste que les musées qui, en général, n'ont pas beaucoup de sous. Et un artiste, vous savez, c'est quelqu'un de très sensible, très fragile. Ils ont besoin de confiance, ils ont besoin de reconnaissance. Donc voilà, le rôle du collectionneur, c'est ça. Et en général, d'ailleurs, les artistes, ils aiment bien les collectionneurs. Pas seulement parce qu'ils achètent, parce que ce sont, ce sont des éléments de sécurité, de sécurisation, d'encouragement pour eux. Et moi, je paye cash avec eux. C'est pas de l'argent. Je joue cash avec eux. Et j'ai très souvent carrément leur dit « Non, ça, c'est franchement de la merde, quoi. Il faut pas le faire. »
Alain-Dominique Perrin, le fondateur de la fondation Cartier-Bresson, Cartier tout court, pardon, pour l'art contemporain, extrait d'une série documentaire réalisée par Xavier Lefebvre. C'était donc en 2017 sur le rôle des collectionneurs aujourd'hui.
Mais c'est un bon résumé, parce que Alain-Dominique Perrin, le fait même qu'il soit le fondateur de la fondation Cartier, il en est toujours d'ailleurs un président à un niveau international, mais le président en France, montre bien qu'il a voulu donner un regard, on va dire, différent à l'époque où justement c'était l'art était surtout connu avec justement les commandes publiques, c'était cet art de l'époque dorée de l'an qui était à la fois très généreuse mais aussi très dogmatique. Voilà, donc la Fondation Cartier a été un souffle, on se souvient de cette ouverture qui était au départ à Jean-Louis en Jaujas, ils se sont installés ici boulevard Raspail, c'était la première fois qu'il y avait une initiative privée justement face au centre d'art, face en tout cas au ministère de la Culture. Aujourd'hui, ça nous semble banal parce qu'il y a la fondation Louis Vuitton, il y a la fondation, enfin la collection Pinault qui va ouvrir dans pas très longtemps, mais à l'époque c'était important. Et d'ailleurs, la politique d'exposition de la fondation Cartier, c'est toujours distingué par rapport justement à ce goût officiel, grâce aussi bien évidemment à Alain-Dominique Perrin qui en donnait l'impulsion, qu'aux personnes dont qu'il a nommé pour justement la diriger. Donc c'est vraiment important.
Si on prend ces grandes fortunes que sont Bernard Arnault et François Pinault ici en France, qui sont à la fois collectionneurs, marchands, à la tête de fondations ou de musées, il y a cette idée du collectionneur responsable à la française, c'est-à-dire qu'il doit montrer aujourd'hui son art, inspiré peut-être de la figure du philanthrope américain. Okay. Mais aux États-Unis, il n'y a pas de ministère de la Culture, il n'y a pas de politique culturelle, il y a juste une politique fiscale. Est-ce que la France est en train de s'inspirer de ce modèle-là? Est-ce que les États-Unis sont aussi en train d'exporter leur modèle artistique?
Alors, c'est une nécessité. De toute façon, il y a moins d'argent dans la sphère publique. Et d'un autre côté, l'art coûte plus cher. Pas tant le prix des œuvres, mais aussi les installations, les vidéos, faire des très grandes expositions, le prix des assurances. Enfin, bon, il y a tout un panel de frais qui sont vraiment devenus très importants. Donc, ce qui ferait que les musées aujourd'hui ont besoin de faire appel à du mécénat pour pouvoir monter des grandes expositions. Et puis, il y a cette politique fiscale beaucoup plus intéressante, notamment la loi de d'Ayagon en 2003 qui permet aux entreprises justement de défiscaliser pour pouvoir aider certaines expositions, certains achats d'œuvres d'art.
Non, mais d'ailleurs, il y a eu un rapport assez sévère de la Cour des comptes sur le mécénat et les économies réalisées, notamment par LVMH, voilà, grâce à la fondation Louis Vuitton. Mais voilà. C'est là où on se demande si on n'est pas en train de calquer. Parce qu'en même temps, ces fondations, elles siphonnent aussi les musées publics.
Alors, elles siphonnent, oui et non. De toute façon, je pense qu'aujourd'hui, on est dans
C'est complémentaire pour vous?
C'est complémentaire, mais c'est complémentaire si on donne les moyens aux grands musées, par exemple, dont le Musée national d'art moderne, qu'on appelle Pompidou ou Boubou, mais on oublie que c'est quand même notre outil national, si on donne les moyens, justement, à ces grands musées publics de pouvoir continuer leur travail scientifique, parce qu'ils ont quand même des conservateurs vraiment de très haut niveau pour faire des expositions plus expérimentales qui soient simplement pas obligées de regarder le nombre d'entrées qu'elles peuvent susciter ou le mécénat qu'elles peuvent amener si jamais telle ou telle décision doit être prise. Donc c'est complémentaire, mais si on donne justement les moyens à ce domaine public de continuer à exister.
Une remise en cause de l'hégémonie américaine, point d'interrogation, c'est le sous-titre de votre ouvrage Géopolitique de l'art contemporain. Vous gardez le point d'interrogation?
Oui, d'abord, parce que l'Amérique, même si c'est quand même le centre du marché, des musées, bon, voilà, je veux dire que l'Europe représente encore quand même et continue de représenter quelque chose de très important. Donc c'est plutôt un soft power plus occidental. Et le débat, c'est ça, c'est plutôt face à la Chine, que le point d'interrogation se place.
Merci beaucoup à vous, Nathalie Obadia, d'être passée autour de cette grande table après Laure Prouveau, qui était donc l'invitée de la première partie, à réécouter en podcast. Et un grand merci à toute l'équipe de la grande table. Très bel après-midi à tous sur France Culture.